السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، حياكم في هذا القاعة en cette soirée du 5 du samedi 5 Jumada al-Akhira 1435 de l'Hijr correspondant au 5 avril 2014. Nous sommes inchallah ta'ala toujours avec le livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala au 50e cours. Juste on va faire une révision très vite inchallah ta'ala. On va dire une seconde le temps que je me contacte inchallah ta'ala. Que je me connecte. Donc on dit, on était, ou là on est toujours au sixième chapitre, les innovations, le bid'a. Ce chapitre contient quatre sous-chapitres. Le premier, la définition de l'innovation, ses catégories et les jugements qui s'y rapportent, on l'a vu, alhamdoulilah. Deuxième sous-chapitre, l'apparition des innovations dans la vie des musulmans et les facteurs qui ont contribué. On l'a vu. Alhamdulillah, bi'idhnillah ta'ala. Pire ou silencieux. Ensuite, troisième sous-chapitre, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs et la méthodologie des gens de la sunna et de l'unicité pour l'hérité. On l'a vu ça aussi. Alhamdulillah. Quatrième sous-chapitre, quelques exemples d'innovation contemporaine. Quatrième sous-chapitre, quelques exemples d'innovation contemporaine. Donc, une seconde. Le troisième chapitre, on ne l'a pas encore vu. Afouane. Naam, le troisième chapitre, on ne l'a pas encore vu. C'est le cours d'aujourd'hui. Naam, c'est le cours d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est ce chapitre. La position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs et la méthodologie des gens de la sunna et de l'unicité pour les réfuter. Voilà, inshallah ta'ala, le cours d'aujourd'hui, le troisième sous-chapitre, bi'idhnillahi ta'ala. Donc vous remarquez bien que ce sous-chapitre, vous voyez bien qu'il se divise en deux choses. La position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs. Et ensuite, on a la méthodologie des gens de la sunna et de l'unicité pour la refuter. Tayyib. Afwan. Une seconde, inshallah ta'ala, je dois fermer le téléphone. Aïwa. Tayyib. Donc, inshallah ta'ala, le premier point, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs. Cheikh Fawzan Al-Hafi a dit, Akh Mahmoud, écrit numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdoulilah. Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit, les gens de la sunna et de l'unicité, ahlu sunnati wal jama'a, ont toujours continué à riposter aux innovateurs, à dénoncer leurs innovations et à les empêcher de les exercer. Voilà quelques exemples. Ensuite, là je profite pour dire, si quelqu'un de vous a un passage de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire moi, peut-être je l'ai, mais je dois chercher. Si quelqu'un a un passage, je sais qu'il y a une sœur qui me l'a déjà envoyé une fois, une sœur de Toulouse. Donc, si vous avez le passage de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, où il dit en ce sens, il dit que toute personne يعني, qui défend les mubtadi'a ou bien qui ne les réfute pas ou bien qui leur trouve des excuses ou bien, يعني, voilà son châtiment. Non, si quelqu'un trouve ce passage, qui me le prépare, inshallah, j'en aurai besoin dans quelques instants. Le Cheikh a dit, les gens de la Sunna et de l'unicité ont toujours compté à riposter aux innovateurs, à dénoncer leurs innovations et à les empêcher de les exercer. Écoutez, à les empêcher de les exercer. Ensuite, il a dit, voilà quelques exemples. J'ai un petit commentaire ici. Les gens, Sunna ou Jama'a, ont toujours continué à riposter aux innovateurs. Il y a des gens, quand tu leur dis, on doit riposter aux innovateurs, ils te disent quoi? Ils te disent, fais de la médisance. Masakin, c'est des miskins, Celui qui dit comme ça, c'est un miskin. C'est quelqu'un qui n'a rien compris au minhaj. C'est quelqu'un qui fait partie des gens de la masse. Comment? Donc d'après toi, je ne dois pas riposter à l'innovateur. Donc d'après toi, je dois le laisser changer le din. Donc d'après toi, je dois le laisser quoi? Je dois le laisser, yani, propager ses bidas. Je dois le laisser propager ses bidas. Je dois le laisser combattre la sunna. Je dois le laisser combattre les salafs. Je dois le laisser propager le faux et l'innovation. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme qui s'appelle Fatima bint Qais, lui a dit, il y a deux prétendants qui sont venus demander ma main, Muawiya et Abu Jahm. Il lui a dit, quant au premier, c'est un surlook, c'est quelqu'un qui n'a rien, c'est-à-dire, je ne te le conseille pas. Quant au second, c'est un frappeur de femmes, quelqu'un qui frappe les femmes. Et il n'a pas dit, astaghfirullah, je suis en train de parler sur quelqu'un qui est absent et je suis en train de parler, je suis en train de faire la médisance. Elle dit, c'est juste pourquoi je cite ou quelque chose de... Voilà, je te conseille quelque chose dans la dunya, cet homme n'est pas bien. Qu'en est-il maintenant si ces deux hommes ou bien d'autres, s'ils étaient des mubtadi'a, s'ils étaient des gens qui yani, combattent, subhanallah l'adim, la sunna. Donc, celui qui dit que, yani, quand on parle de quelqu'un, on montre son mal et sa bid'a. Et quoi? C'est de la médisance. Celui-là, miskin, la moindre des choses qu'on puisse dire de lui, c'est un jahil. C'est un jahil qui apprend sa religion. Ça me rappelle entre-temps, dans Sahih al-Bukhari, que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a entendu quelqu'un dire sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il était injuste quand il partageait. Il est allé vite le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le prophète alayhi wa sallam a rougi, c'est-à-dire il s'est mis en colère. Ensuite il a dit, Rahim Allah Moussa, que Allah subhanahu wa ta'ala englobe de miséricorde Moussa, c'est-à-dire mon frère Moussa, Moïse. Il a dit, fa'udhiya akthara min hadha fa sabr. Il a éprouvé plus que ceci, et il a patienté. Al-Muhim, ici, Ibn Hajj al-Asqalani, rahimahullah, a dit quoi? A dit, c'est un délit ici. Qu'on peut quoi? Qu'on peut rapporter les dires des gens à celui sur lequel on a parlé, s'il y a une maslaha en cela. C'est-à-dire, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, quand il est allé vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, on parlait de toi, voilà ce qu'on a dit. Le prophète, alayhi wa sallam, ne lui a pas dit, c'est de la médisance, pourquoi tu viens ramener cette chose? Vous avez compris pourquoi? Parce que la médisance, c'est de parler sur quelqu'un en son absence, en des choses qui ne sont pas bien. Mais maintenant, la personne fait des choses qui ne sont pas bien. Et c'est elle-même, il y a un ami qui critique d'autres gens et dit qu'ils ne sont pas bien, il ne faut pas les écouter, etc. Ensuite, tu n'avertis pas l'autre personne. Ça veut dire quoi? Tu ne lui as pas fait la nasiha. Et le prophète, alayhi salam, a dit, « Dis la nasiha. » Imagine que tu connaisses quelqu'un qui est salafi, mashallah, qui est dans une mosquée. Ensuite, tu entends quelqu'un parler de lui, comme quoi, yani, c'est un escroc, comme quoi, c'est un, je ne sais pas, il se moque, il fait des choses pas bien, etc. Est-ce que ce n'est pas, ça rentre pas dans la nasiha d'aller lui dire, de dire voilà ce qu'on dit de toi, que tu n'es pas bien, que tu dragues ou je ne sais pas quoi, mais là, hein, pourquoi? Pour qu'il prenne ses gardes. Non, si c'est vrai, qu'il revienne, si c'est faux, yani, alhamdoulillah, qu'il soit mis en garde, que voilà, des gens parlent de lui. Si c'est vrai ce qu'ils ont dit, yani, qu'il se corrige, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, lorsqu'il a dit ici, ils ont toujours continué à riposter aux innovateurs, à dénoncer leurs innovations. Tu vois quelqu'un faire des innovations, tu le dénonces pas, tu le laisses. Naam. Bon, si tu peux lui donner nasiha, donne-lui. Et les savants disent, ce n'est même pas obligé de lui donner nasiha, pas une condition. Tu lui donnes, mashallah, tu lui donnes pas et tu dénonces, maalesh, ça se fait. Ils ont dit, c'est pas une condition. Donc, à dénoncer leurs innovations. Et toi, si les gens faire les innovations, ni tu leur donnes des nasiha, les dénonces. Et plus grave, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et à les empêcher de les exercer. Ils empêchent les innovateurs de faire yani, leur bid'a. Dans des livres, un des livres, j'ai oublié, ou bien, comment il s'appelle? Sharia, Naam, de l'Adjouri, ou bien Sunna, Barbahari, mais je pense peut-être Sunna de Barbahari, expliqué par un grand savant. Il est noté, j'ai lu une chose qui m'a beaucoup plu, subhanallah, mais un peu étonné. Il y a quelqu'un, un grand savant dans le hadith qui s'appelle Ibn Salah. Cet Ibn Salah, Mahmoud, si vous likez le numéro 1, si vous m'entendez, cet Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, qui a un livre très connu, Muqaddimat Salah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une fois, il a dit, dans la ville où j'étais, on a, comment je cherche le mot, disons, on a employé, si je puis dire. Disons, on a donné à Ibn Hazm, vous connaissez Ibn Hazm, très connu. Non. On lui a donné, rahimahullah ta'ala, on lui a donné la fonction d'enseignant dans une madrasa, dans une école, on lui a donné la fonction d'enseignant, commencer à enseigner. Non. Dans yani, l'école, la madrasa coranique et sunna, etc., dans la ville où était Ibn Salah. Ibn Hazm, connaissez. Ibn Hazm, vous connaissez, il a des bid'a dans la aqida, au point où certains ont dit de lui Jahmi, et il a des choses yani, qui contredisent yani, la plupart des musulmans dans le fiqh, et surtout dans Usul fiqh, il dit il n'y a pas de qiyas, il n'y a pas de ilal, il n'y a pas de cause, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Qiyas, ça veut dire analogie. Qu'a dit Ibn Salah? Il a dit depuis que Naam, il l'a mis dans cette école, je n'ai cessé de le dénoncer et de lui faire des problèmes et de lui faire des embûches jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait arrêté, jusqu'à ce que les gens l'ont arrêté, bi'idhnillah, dans l'enseignement. Il a dit, quand j'ai entendu qu'ils l'ont arrêté, ça m'a fait beaucoup plus plaisir que si telle ville, il a cité une ville qui était assiégée par les chrétiens. Il a dit, pour moi, c'était mieux que la libération de la ville Oka, Oka qui se trouve en Palestine. Il a dit, quand j'ai entendu que Ibn Hazm, on l'a fait démissionner de sa fonction d'enseignant, ça a été pour moi une fête, yani, c'était mieux pour moi que la libération de Oka. C'est comme si je te dis, c'est pour moi mieux que la libération de Palestine des Juifs. Le fait d'arrêter quelqu'un qui fait de la bid'a de l'enseignement. Allahu Akbar. Et maintenant, les innovations, il les laisse. Il trouve ça assez normal. Taïb. Une seconde. Est-ce que quelqu'un de vous a que j'ai demandé de Cheikh l'Islam? Sinon, moi, si j'avais pensé à ça, avant le cours, je l'aurais préparé. D'Allah, ça ne m'est venu que quand j'ai commencé le cours. Est-ce que quelqu'un a le texte de Ibn de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala? Faites-moi signe. J'attends vos réponses, sallallahu ta'ala. Taïb, une seconde, je cherche. Je cherche une sœur. Si elle est là, elle lave. Je cherche une sœur. Si elle est là, elle lave. Non. Deux. Homme islam, deux. Je vois que tu es avec nous dans la liste. Une fois, toi-même, tu me l'as envoyé. Envoyé dans un mail. Là où Cheikh l'Islam dit que quiconque ne réfute pas les mubtadi'a, etc. Est-ce que tu as ce passage aujourd'hui? Est-ce qu'il est là devant toi? D'ailleurs, je continue le temps que les gens cherchent. Voici quelques exemples. Voici quelques écrits. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, comment Al-Sunnah réfutait les mubtadi'a. À Umm Darda, radiallahu ta'ala anha, l'épouse de Abu Darda, qu'Allah Ta'ala l'a gré, a dit: Abu Darda, c'est-à-dire mon mari, entra une fois chez moi fâché. Et je lui dis: Qu'as-tu? Il a dit: Par Allah, je ne reconnais plus en eux le message de Muhammad, alayhi à part pris encore en groupe, à part qu'il prie encore en groupe. Donc, Abu Darda, radiallahu ta'ala, nous, hadith rapporté par le Bukhari, il est rentré fâché à la maison, par Allah, je ne reconnais plus chez les gens le message de Muhammad, la sunna, du Muhammad, alayhi salam. Pourquoi? Il ne leur reste que le fait qu'ils prient en groupe. Sinon, je vois que ces gens, ils sont vraiment loin du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn dit: J'ai entendu mon père rapporter de la part de son père. Il a dit: Nous nous asseyons. Écoutez bien ce qui va suivre. Nous nous asseyons de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, avant la prière du matin. Et lorsqu'il sortait de chez lui, nous nous rendions tous à la mosquée. Donc il l'attendait devant la porte pour aller prier en groupe salat al-subh. Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, un autre sahabi, est alors venu et a dit: Abu Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, est-il déjà sorti? Il est arrivé dans sa maison, il a trouvé certains gens comme ça devant la porte, il leur a demandé: Est-ce que Abdullah ibn Mas'ud, qui s'appelle Abu Abdurrahman, est-ce qu'il est sorti ou pas encore? Nous avons répondu que non. Il s'est assis jusqu'à ce qu'il sorte. Lorsqu'il sortit, nous nous sommes tous levés vers lui. Puis Abu Moussa, radiallahu ta'ala anhu, a dit: Ô Abu Abdurrahman, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, j'ai vu à la mosquée il y a un instant une chose qui m'a semblé étrange. Mais par la grâce d'Allah, je n'ai vu que du bien. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: Quoi s'agit-il? Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, répond: Tu vis, tu le verras. Si tu vis, tu le verras. J'ai vu des gens dans la mosquée. Écoutez ce qu'il a vu. J'ai vu des gens dans la mosquée assis en cercle attendant la prière. Des gens dans la mosquée assis en cercle. 5, 6, 4, 5, 6, 8, comme ça, des cercles, ils font des cercles. Ils attendent la prière. Ils avaient des cailloux en main. Et dans chaque cercle, un homme disait: Célébrez la grandeur d'Allah 100 fois. Célébrez la grandeur d'Allah Azza wa Jal 100 fois. Et puis, ils célébrèrent la grandeur d'Allah 100 fois en disant: Akbar. 100 fois. Allahu Akbar. Ensuite, il dit: Dites La ilaha illallah 100 fois. Et puis, ils répétèrent cette forme 100 fois. Ensuite, il dit: Glorifie Allah 100 fois. Et puis, ils le glorifièrent 100 fois en répétant Subhanallah, Subhanallah. Et à chaque fois, pourquoi ils avaient des cailloux dans la main? Pour compter. Ils disent Allahu Akbar, cailloux, Allahu Akbar. Comme ça. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a dit: Et que leur as-tu dit? Hein? Dis-moi, Abu Moussa al-Ash'ari, dis-moi. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu as dit à ces gens? Abu Moussa répondit: Je ne leur ai rien dit en attendant que tu dises ce que tu en penses ou ce que tu ordonnes. C'est-à-dire, « Ya Abdullah ibn Mas'ud, je n'ai pas ton niveau dans la science. Naam, je voudrais que ce soit toi qui viennes, Inch'Allah ta'ala, yani, nous dire ce qu'on doit faire et yani, prendre, Inch'Allah ta'ala, la position correcte. » Alors Abdullah ibn Mas'ud dit, « Pourquoi ne leur as-tu pas demandé de compter leurs mauvaises actions ?» Pourquoi ne leur as-tu pas demandé de mauvaises actions et ne leur as-tu pas assuré que leurs bonnes œuvres ne seront pas vaines ? Sauf quelque chose, regardez la hikma, la sagesse. Au lieu qu'ils comptent comme ça 100 fois des choses qui te font la bida, pourquoi tu ne leur as pas demandé qu'ils comptent leurs péchés ? C'est mieux de compter ses péchés. Et tu leur assures que leurs hasanat, leurs bonnes œuvres, ne seront vaines, ne seront toujours comptées. Ensuite, nous partîmes avec lui jusqu'à ce qu'il arrivât auprès de l'un de ses cercles. Il se mit devant eux et dit, « Qu'est-ce que je vois en train de faire ? Qu'est-ce que je vous vois en train de faire ?» Ils répondirent, « Ô Abu Abdurrahman, ô Abdullah ibn Mas'ud, ce ne sont que des cailloux avec lesquels nous comptons la célébration de la grandeur d'Allah. » Cailloux avec lesquels on compte combien de fois on dit Allahu Akbar, sa glorification et sa louange. Ce ne sont que des cailloux avec lesquels on compte Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Il leur dit alors, comptez plutôt vos méfaits, vos mauvaises actions, et je vous assure que vos bonnes œuvres ne seront pas perdues sans récompense. Ensuite il a dit, malheur à vous. Ô communauté de Muhammad, comme est rapide votre destruction, subhanallah, comme est rapide votre destruction. Ensuite, écoute ce qu'il a dit. Voici les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont toujours nombreux. Ils sont là, ils sont toujours vivants. Et voilà ses vêtements, les vêtements, alayhi wa sallam, ses vêtements qui ne sont pas encore usés. Et ses ustensiles qui ne sont encore cassés par celui qui détient mon âme dans sa main. Il a juré par Allah. Soit, écoutez bien ce qu'il a dit ici, qui détient mon âme dans sa main, soit vous suivez un chemin plus droit que celui de Muhammad, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte vers moi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. En faisant des choses comme ça, que le prophète Aïssan n'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je jure par Allah ta'ala, que vous êtes mieux guidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, lui, il n'a pas fait ça. Et vous, vous le faites. Donc, vous êtes mieux guidé que lui. Ou bien, il n'y a pas la troisième chose, deux choses d'une. Ou bien, vous êtes en train d'ouvrir une porte vers l'égarement. Ou bien, des mubtadi'a et des égarés. Non, quand quelqu'un invente une chose dans le dîn, c'est de deux choses l'une. Ou bien il est mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il a plus de science que lui et plus de guidé que lui. Ou bien, c'est un mubtadi' fini. Ensuite, il leur dit, afoun, eux, ils dirent, ô Abu Abdurrahman, par Allah, nous ne voulions que du bien. Ô Abu Abdurrahman, par Allah, nous ne voulions que du bien. Vous avez remarqué, le Mubtadi, toujours qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Allah Ta'ala sait et connaît mon intention. Moi, je ne veux que du bien. Je jure par Allah que ma niyya était bonne et que je ne voulais que du bien. Comme ça, toujours la même réponse, Mubtadi, nous ne voulions que du bien. Écoutez ce qu'il a répondu. Hein? Peut-être quelqu'un qui n'a pas de science, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, oui, en fin de compte, il voulait que du bien. Et Allah Ta'ala donne d'après ce qu'il y a dans le cœur, d'après ce qu'il y a dans le cœur, et dans le hadith authentique que tout le monde connaît, innama al-a'mal bin niyyat, dépend des intentions. Regardez ce qu'il leur a répondu. Et combien sont ceux qui veulent le bien sans jamais l'atteindre? Naam. Et combien sont ceux, il y a des milliers, des millions de gens qui veulent le bien mais jamais ne l'atteignent. Car quand tu veux du bien, il faut que tu connaisses la charia, il faut que tu connaisses la sunna, naam, pour voir si cette chose est bien, et ensuite comment faire ce bien. Ce n'est pas de ta tête, tu inventes des choses et tu dis je veux le bien. C'est pour ça quand quelqu'un te dit je cherche le bien, tu lui dis c'est vrai. Et combien de gens veulent le bien mais ne l'ont jamais atteint. Oh, combien de musulmans, ou là, de kofar, ou là, veulent le bien, mais ne l'ont jamais atteint. Naam. Ce n'est pas l'essentiel de vouloir le bien seulement, mais d'être sûr que ce que tu fais, c'est du bien. Tu l'as mis sur la balance de la sharia, et tu as su que c'était du bien. Naam. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et combien sont ceux qui veulent le bien, mais sans jamais l'atteindre. Naam. Ensuite, écoutez ce qu'il a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y aura des gens qui lisent le Coran sans qu'ils ne dépassent leur clavicule. Naam. Le hadith que je vous ai cité plusieurs fois, que l'un de vous lit son Coran quand il va les entendre lire. L'un de vous va mépriser sa salat quand il va les voir prier. Et comme ça. Il va mépriser son jeûne quand il les voit jeûner. Donc il leur a dit, le prophète alayhi nous a informé qu'il y aura des gens qui vont lire le Coran, mais sans qu'ils ne dépassent leur clavicule. Par Allah, écoutez ce qu'il a dit, par les Khawarij, ensuite il a dit, par Allah, je ne sais pas, peut-être que la majorité d'entre vous en fait partie. Allahu Akbar. Il a dit, par Allah, je ne sais pas, mais peut-être que la plupart d'entre vous font partie d'entre eux. Des Khawarij, des Mubtadi'a. Puis il partit. Et Amr ibn Salama, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous avons vu la plupart d'entre eux. C'est quelqu'un, celui-là, qui a vécu après ce qui s'est passé là dans la mosquée. Il a dit, nous avons vu la plupart d'entre eux, de ceux qui étaient assis en train de faire des cercles, nous avons vu la plupart d'entre eux en train de nous combattre avec les Khawarij à la bataille de Nahrawan. Allahu Akbar, à la bataille de Nahrawan. Hadith authentique, voir Islah al-Masajid de Sheikh al-Albani, page 13, numéro. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons vu la plupart d'entre eux, la plupart de ces gens qui ont des cailloux, on dit fois Allahu Akbar, 100 fois Subhanallah, 100 fois Alhamdulillah. On les a vus la plupart en train de nous combattre avec les Khawarij. Dans les rangs des Khawarij, contre qui? Contre Ahl-Sunnah, à la bataille de Nahrawan. Allahu Akbar. Donc, de cette dernière phrase, les savants ont pris quoi? Ont pris un intérêt. Que la plupart des Mubtadi'a meurent, yani, avec les Mubtadi'a. Naam, la plupart qui ne reviennent pas meurent avec les Mubtadi'a en train de combattre les gens de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Un autre exemple. Un homme vint chez l'imam Malik. Jusqu'à présent, aucune personne ne m'a donné le texte de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Genre toujours. Un homme vint chez l'Ik Ibn Anas, Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde et lui dit. Donc un homme est venu, Imam Malik, que tout le monde connaît, Rahimahullah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, à partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacrer en ihram pour faire par exemple l'Umrah ou l'Hajj? Dis-moi, ya imam, à partir de quel endroit, où exactement dois-je me mettre en état de sacralisation? Malik lui répondit, à part droit que le Allah alayhi wa sallam, j'arrête une seconde, l'imam Ibn Taymiyyah dit, non, c'est pas ce que je cherche. Je cherche. L'imam qui a unanime d'élément sur l'obligation de clarifier et d'avertir entre les imams des innovations qui sont des avis divergents avec le Coran et la Sunna. D'accord, mais c'est pas ce que je cherche. Barakallahu fik. On demande à Ahmed ibn Hanbal, lequel aimes-tu le plus? Celui qui jeûne, prie la nuit et reste en retraite rituelle, ou celui qui avertit contre les gens de l'innovation? Il répondit, s'il prie et se met en retraite rituelle, alors que s'il parle sur les innovations, vous m'entendez? نعم. دونك امام احمد دادي غادي يقول سي كيلكان بارل يعني عفوا سا سي بور لوي نو اون ا ريان غاني افيك لوي مي سي بار كونت كيلكان بارل سور لي زينوفاتور كونتر لي زينوفاتور دينونس لي زينوفاتور سيلوي لا اي ميو كو سيلوي كي بري توت لا نوي اي جون توت لا نوي بوركوا كار سيلوي لا في دو بيان و لا سون بيان فا جوسكو مسلمون تانديس سون بيان يعني reste chez lui. C'est lui qui prie, c'est lui qui jeûne, lui qui a les récompenses. Mais par contre, celui qui parle sur les mubtadi'a, celui-là, yani son bien, son khair, yani va jusqu'aux gens, se propage aux gens. Masha'Allah, il est mieux. Naam. Tayyib. Tandis qu'il a... Qu'est-ce qu'il dit ici en arabe? Tayyib. C'est pas ce que je cherche, mais barakfikum. Mais c'est pas ce que je cherche. Ma'ali. Donc, un homme va chez l'imam Malik, à partir de quel endroit dois-je me mettre en état de sacralisme? Il lui répond, à partir de l'endroit que le prophète Hassan a précisé, où il a fait l'ihram. Et l'homme a dit, et mais si je le faisais à partir d'un endroit plus éloigné, et si je m'éloigne un peu, qu'est-ce qui va se passer? Je m'éloigne juste un peu de l'endroit où il a ordonné. Alors, lui répondit, je suis servi. Alors, l'homme lui dit, que reproches-tu à cela? Qu'est-ce que tu reproches? Imam Malik répondit, je crains que tu ne sois éprouvé. Je crains qu'il t'arrive une épreuve. Alors, l'homme dit, pourquoi alors? Pourquoi? Pourquoi il m'arrive des épreuves alors que je fais davantage de bien? Subhanallah. Moi, quand je m'éloigne de l'endroit qu'a montré le prophète, yani, je me rapproche encore de la Mecque. Donc, que du bien. Alors l'imam Malik rahimahullah lui a répondu, il lui a dit, Allah Ta'ala a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala a dit que ceux donc qui s'opposent à son commandement, alayhi sallallahu sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Alors l'autre dit, et quel afun, l'imam Malik continue de dire, et quelle épreuve est plus grave, écoutez bien, et quelle épreuve est plus grave que de te croire doté des mérites qui n'ont pas été attribués au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu connais une épreuve plus grande et plus grave que tu crois dans ton cœur que tu as des mérites qui n'ont pas été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Voir le livre de Abu Shama. Naam. Son livre Ba'it al-Inkar ou le Bida' ou le Hawadith, page 14. Voici donc quelques exemples et les savants continuent de dénoncer les innovateurs en tout temps. Qu'Allah Azza wa Jal soit loué. Deuxièmement, maintenant, l'institut, plutôt la méthodologie des journaux de l'unicité. Réfutation des enfants. Cette attitude est basée sur le Coran et la Sunna. C'est la méthode la plus convaincante, cinglante, qui consiste à quoi? Qui consiste à oser leurs faux arguments, puis à les réfuter. C'est ça le vrai djihad. Le vrai djihad, tu trouves un moubtadi, naam, tu prends tout ce qu'il a dit, ensuite tu réfutes tout ce qu'il a dit et tu montres que c'est batel, 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 mensonge, mensonge, mensonge. Les gens de la Sunna et de l'unicité puisent dans le coin et dans la Sunna des preuves concernant l'attaché tradition prophétique, les Sunna, des innovations et des inventions dans la religion. Ainsi, ils ont rédigé plusieurs ouvrages dans ce domaine et riposté dans leurs livres. Ils ont riposté aux croyances, des fausses croyances, aux chiites, aux khawarij, à l'jahmiya, à l'mu'tazila, à l'asha'ira, en ce qui concerne leurs paroles innovées autour des fondements de la foi et du dogme. Ils ont aussi rédigé plus spécialisé à ce sujet, tel que le livre de l'imam Ahmed. Écoutez son livre. Ar-Rabd al-Jahmiya, réplique sur les Jahmites. D'autres imams ont abordé le même sujet dans leurs ouvrages. Uthman ibn Sa'imi, ainsi qu'Islam Taymiya, son élève Ibn al-Qayyim, Cheikh Islam Taymiya, quand il a écrit par exemple son livre, Rad al-Bakri, réfutation sur al-Bakri, quelqu'un dit, la descendance de Abu Bakr. Rad ala l'Ikhna'i. Réfutation de l'Ikhna'i. Quelqu'un qui s'appelait l'Ikhna'i. Et comme ça, il les cite avec les noms. Son élève, Nur Qayyim. Rad ala comme Sawa'iq al-Mursala. Naam. Rad ala l'Jahmiya. Et comme ça. Cheikh l'Islam Ibn Abdul Wahhab. Et d'autres qui ont aussi riposté à l'on sont celles qui rendent un culte au tombeau et au soufisme. Quant au livre spécialisé dans la riposte aux adeptes des innocents, ils sont nombreux. Il y a d'anciens ouvrages et des ouvrages contemporains. Parmi les anciens ouvrages, الاعتصام الشاطبي اقتداء الصراط المستقيم ابن تيمية انكار الحوادث والبدع لابن وح وشي رحمه الله تعالى. نعم. الباعث على إنكار البدع والحوادث. Et parmi les ouvrages contemporains, on va citer ça. دع في مرض ابتداع. سنات المتعلقة للشيخ محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي ومنتندي با طيب رجوة فيها إن شاء الله justement quand ça poste ça coupe un peu. يقوم رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. Donc ici se termine le cours بإذن الله تعالى. Le prochain cours quelques exemples d'innovation contemporaine. Cheikh l'Islam رحمه الله تعالى dit: comme les chefs de file des innovateurs, les auteurs des opinions, des pratiques contraires au Coran et à Sunna, il incombe à l'unanimité des musulmans de dévoiler leur situation et de mettre contre la nation en garde. Naam, Zichouya Fawzan, Afwan Fawzan, Fawzi. Il reste la suite, où est-ce qu'elle dit? La suite. Si tu ne trouves pas, je vais chercher.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شيخ je vous pose la première question si vous m'entendez. Apparemment c'est une question. D'accord. Apparemment c'est des questions d'ordre général celle-ci. Si j'ai bien compris, Fawzia a eu un bug, il n'a pas pu les récupérer. Donc première question, cher. Donc la question, cher. Le frère vous dit Barakallahu fikoum, cher, car vous avez été une des personnes qui m'a fait connaître le Minhaj, et vous m'avez beaucoup touché à travers vos cours que j'ai pu entendre. Il dit: je rencontre beaucoup de difficultés avec certains vieux musulmans qui, pour eux, serrer les mains aux femmes n'est pas haram. Ils prennent ceci à la légère et disent: nous sommes vieux, à l'abri de la tentation, et qui ont déjà tenté de serrer la main de ma femme, qui elle ne leur a pas serré la main, et elle reste ferme là-dessus. Je précise, ces personnes, plusieurs fois nous les côtoyons chez la famille de ma femme, et à chaque fois avant d'y aller, je crains toujours cette situation, et je crains que ma femme, par pression de sa famille, ne serre la main de ces personnes. Pouvez-vous me donner les deux explications en arabe littéraire et en français que je puisse leur faire écouter et les convaincre, car cette situation me fait beaucoup de mal, cher. Donc, Barakallahu fikoum, cher, en résumé, si vous pouvez faire une explication à la fois en arabe littéraire et en français, montrant qu'il n'est pas permis à l'homme de serrer la femme, même si cette personne est à un âge avancé. Barakallahu fikoum, cher.
Une seconde, je suis en train de chercher le numéro d'Ahadith, Inch'Allah Ta'ala.
C'était juste pour confirmer parce que avec les problèmes qu'il y a eu ce soir, on commence à avoir le wouswas. Tfadalou, cher. Afouane, juste pour dire que vu la difficulté par rapport à l'organisation de ce soir, qui est indépendante de notre volonté, on va poser les questions d'ordre général, donc des mains levées dans la room normale. Et on demande à toutes les personnes qui ont des questions sur le cours d'aujourd'hui de bien les garder, Inch'Allah. Et lors du prochain cours, on les prendra et Chéri répondra, Inch'Allah. Donc pour ce soir, quand Allah m'a chafa'a, ça va être très compliqué. Donc ce seront les questions générales.
Je disais donc, bismillahirrahmanirrahim, comment ça s'appelle l'aiguille, naam, l'aiguille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, vous voyez maintenant devant moi ici, que là, si l'un de vous, naam, yani on le frappait avec une aiguille, reprenez-moi si je me trompe, l'aiguille c'est celle avec laquelle on coud les vêtements. Saha. Tayyib. Il a dit, c'est mieux pour lui que yani, de toucher une femme qui lui est interdite. Qui lui est interdite. La en yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid, une aiguille en fer. Khayrun lahu min an yamsa imra'atan la tahillu lahu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que, c'est-à-dire que si on a un âge précis, ou bien si on a, ou si on est vieux, ou si ceci, ou si cela, c'est permis. Non. Par contre, il a dit que toute personne, yani si yani, elle devait toucher une femme qui ne lui est pas permise, non. C'est-à-dire qu'il n'est ni sa soeur, ni sa femme, ni sa tante, ni, hein, il a dit de préférence que on le frappe avec une aiguille. Une aiguille en fer, hein, c'est mieux que quoi? Qu'il soit, Inch'Allah Ta'ala, qu'il mette la main dans la main d'une femme. Taïb, maintenant on dit que il y a d'autres délits aussi, voilà. Au lieu de, comme dit la personne, on peut aussi poster ça, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Regardez sur ce lien, hadith sur la poignée des mains entre les mains et les femmes. Non, vous trouvez, Inch'Allah, ça. Je ne peux pas ici, hein. Il m'a dit, vous n'êtes pas autorisé à envoyer des liens URL dans ce salon. Donc il ne m'a pas laissé mettre ce lien. Ibn Mohamed, si vous êtes, si quelqu'un est admin dans ce salon, il peut mettre le lien, je crois. Non, je ne peux pas. Non. Donc, le hadith n'a pas précisé, n'a pas dit que si on est vieux ou par exemple on peut. C'est un peu comme la femme qui va dire maintenant moi je suis vieille, donc je peux me dévoiler. Et quelqu'un qui dit, qui va dire moi je me connais bien, je me maîtrise, je me maîtrise, donc je peux boire un verre de vin. Car Allah Ta'ala a interdit le vin, car il saoule, il rend la personne saoule. Et moi, alhamdoulillah, je peux boire un vin, un verre. Sans devenir saoul. Donc, moi, je peux boire un vin. Parce que je me maîtrise. Et comme ça, chacun va, quoi, va, yani, déformer la religion. Et va déformer les préceptes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et du prophète, sallam, en faisant rentrer, yani, des choses personnelles. Et ça, c'est haram, comme vous le savez, bi'idhnillahi ta'ala. Aqoul, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam, ashraf mursalin, Nabi alayhi sallam, qal, لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لو الإنسان يخير بين أن يضرب على رأسه بمخيط من حديد قال عليه الصلاة والسلام هو أفضل له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ولا عبرة بقول القائل أنا كبير ولا أخشى على نفسي كذا وكذا، لأن الحديث لم يستثني أحدا، قال يعني من، ولم يقول إلا إذا كان شيخا أو كان كهلا أو كان عمره كذا وكذا، هذا كله ليس موجودا في الحديث. ولو كانت النصوص تدخلها الاعتبارات الشخصية لجاز للإنسان إذن للمرأة مثلا أن تدع حجابها وتقول أنا امرأة مسنة ولا يطمع في الرجال ولا أريد الزواج، إذن يجوز لي أن أتكشف أمام الرجال. ولا جاز أيضا للإنسان الذي يقول أنا أتملك نفسي أن يشرب كأسا من الخمر، يقول لأن الله نهى عن شرب الخمر لأنها تسكر، وأنا الحمد لله أعرف نفسي جيدا أستطيع أن أشرب كأسا من غير أن أسكر، إذن أنا إن شاء الله تعالى سأشرب كأسا، وهكذا. فيدخل الإنسان في التلاعب بالشريعة. تفضل.
بارك الله فيكم شيخ. Deuxième question, question d'un frère qui dit: étant dans une situation difficile qui est en voie de résolution, bi'idhnillah, et m'attachant à rembourser mes dettes, je viens vous expliquer ma situation et demander des éclaircissements sur la voie à suivre. Donc, dans un premier temps, je faisais sauter mes amendes donc, par l'intermédiaire de mon père, les amendes donc prosiyachir, sans qu'il y ait eu, à ma connaissance, de contrepartie avec la personne qui faisait annuler les amendes. Par la suite, il m'est apparu que cela pouvait s'apparenter à de la corruption. J'ai donc essayé d'arrêter. Après cela, je me suis aperçu que pendant au moins un an, aucune amende n'avait sauté, ce qui les a majorés dû au temps dépassé pour les payer. Donc il avait des amendes, comme pendant un an il ne les a pas payées, elles ont augmenté. Il dit aujourd'hui, je n'ai pas le moyen de régler ces amendes. Voici les questions par rapport à cette situation, cher. Est-il permis de demander soit la grâce présidentielle, soit l'annulation des frais de majoration auprès du procureur de la République? Ensuite, je vous poserai les autres questions, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'il est permis de demander la grâce présidentielle ou l'annulation des frais de majoration auprès d'un procureur de la République en France, je précise.
C'est pas très clair que ça veut dire qu'il demande la grâce présidentielle, etc. Si tu peux m'expliquer, Inch'Allah.
En fait, demander, envoyer une lettre, un courrier au président de la République, et donc à son cabinet plus exactement, et afin de lui dire, voilà, je n'ai pas les moyens de payer, par exemple, ou autre, et comme ça, espérer que lui dise, c'est bon, tu es pardonné, ou comme ça.
Si c'est vrai qu'il est dans la situation qu'il n'est pas, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, que ce n'est pas interdit. Non, s'il sait qu'il est dans une situation où il ne peut pas, et qu'il demande yani, qu'on lui enlève ou on lui efface les dettes, non, il n'a rien fait de mal, bi'idhnillah ta'ala. Tfadl, Wallahu ta'ala alam, tfadl.
Sa deuxième question, cher, est-il correct de penser que le fait de faire sauter des amendes, même sans contrepartie, s'apparente à de la corruption? Donc le fait de demander à une personne, fais en sorte de m'annuler mes amendes, est-ce que ça s'apparente à de la corruption, cher?
Ça rend un peu. Sauf si la personne sait que on lui a fait une amende injustement. Mais si par exemple la personne c'est elle-même qui yani, roule par exemple à une vitesse, une grande vitesse, ou bien je ne sais pas, ce qu'elle fait, elle brûle le feu rouge, ensuite on lui fait une amende, ensuite il demande à quelqu'un qui connaît de lui annuler l'amende. Vous avez compris? Zed.
Madame Cheikh, c'est comme vous m'aviez dit une fois, juste pour la faïda, Ce n'est pas des règles qui contredisent les lois d'Allah, Azzawajal. Donc on est tenu de les respecter, c'est bien ça, cher. On doit respecter ce code. Et si on a un procès, alors c'est nous qui l'avons eu de nos propres mains, c'est bien ça, cher.
Non, c'est normal que si c'était quelque chose qui allait à l'encontre de la charia, que c'est interdit de l'accepter. Non, sinon on va contredire le Coran et la Sunna. Mais là, ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a laissées comme ça libres aux gens pour s'organiser. Pour s'organiser, vous pouvez mettre une plaque qu'on passe pas par ici, un feu rouge là, un sens interdit là, et comme ça, et comme ça. C'est juste pour s'organiser. Ça n'a rien à voir avec la charia et les takfir et les kuffar et les ceci et les cela, et celui qui n'applique pas la loi d'Allah est devenu kafir. Comme j'ai entendu une fois quelqu'un, un takfiré, un grand takfiré, une grande tête de takfir, il a dit que l'arbitre, quand l'arbitre, il a des lois, ça. Si tu casses quelqu'un, il y a un coup franc. Si tu fais, je ne sais pas quoi, une faute dans les 18 pénalités, et comme ça. Il a dit ça, c'est du coffre. Il a dit parce que ce sont des il a dit des lois qui vont à l'encontre de la charia. Allahu Akbar. Il a dit, Allah Ta'ala n'a pas fait descendre ses lois. Il a dit c'est du coffre. Donc l'arbitre c'est un kafir, les joueurs sont des kofars, et tous les spectateurs, bien sûr, les spectateurs sont aussi des kofars. Vous avez compris? Et plus que cela, et toutes les personnes qui ne pensent pas comme pense celui-là, ce sont des kofars. Donc si il y a combien de musulmans? Disons il y a 4 milliards de musulmans. Je suis sûr que parmi les 4 milliards, il y a 3 milliards 999 qui pensent que ce que dit cette personne est faux. Donc 3 milliards 999 sont des kofars. D'après ça, si je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, il s'appelle Ibrahim ou Abu Ibrahim ou quelque chose comme ça, un grand takfiri, je pense, de Belgique. Et je suis sûr que maintenant, Allahu alam, qu'il a dû couler, car ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Allahu alam, parce qu'eux, ils ne tiennent pas bout. La plupart du temps, leur feu ne dure pas longtemps. Car ils ne sont pas sur le vrai chemin, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadhal.
Ah, cher, juste pour la faïda, j'ai entendu le cheikh Fouzen dans un das récent qui a dit que la personne devra rendre des comptes devant Allah, même si elle arrive à échapper ici au contrôle et aux autorités. Et la troisième question, cher, est-ce que le fait que l'amende soit majorée, c'est-à-dire qu'elle augmente uniquement à cause du dépassement du temps, c'est-à-dire il lui laisse un délai de 1 mois. S'il ne paye pas dans ces 1 mois, on lui paye par exemple 100 euros, ça va devenir 120, et ainsi de suite. Est-ce que cela s'apparente à de l'usure, cher Riba?
C'est ça riba. Si ça c'est pas de l'usure, alors c'est quoi l'usure? C'est ça la riba. Riba el jahiliya d'autrefois. Il prête à quelqu'un 100 dinars, il lui dit, par exemple, tu me les rends dans un mois. Quand le mois arrive, l'autre dit, j'ai pas les 100 dinars. Il lui dit, alors c'est devenu 110. Deuxième mois, ça devient 120, 130, et ça monte. C'est ça la riba. C'est ça.
Oui, on a bien lu Ah Mohamed, mais je ne pense pas que ça change quelque chose par rapport aux réponses que Cheikh a données. C'est pour ça qu'on n'y a pas tenu compte. Demande-lui si ça change quelque chose. Enfin, troisième question, Cheikh. Question d'une sœur qui dit: je suis né de la fornication. Mon père n'est donc pas mon père en islam. Ma question est: puis-je lui parler? Dois-je me voiler devant lui et rester seul avec lui? Et est-ce que s'il se repent sincèrement de la fornication et revient dans le droit chemin, il pourra redevenir mon père légitime et mon tuteur. Maklof et Komcher, elle demande si le prénom Nour est permis.
Même s'il se repent, ça ne change rien. Là, ça ne change rien, même s'il se repent, etc. Taïb. Donc, celui-là, c'est un étranger. Sauf s'il se marie avec ta mère. Dans ce cas, tu peux te dévoiler devant lui car il devient le beau-père. Mais si jamais il n'est pas marié avec ta mère maintenant, donc cette personne, est une personne étrangère. Est une personne étrangère d'après l'avis de la plupart des savants. Naam. Sauf Cheikh Ibn Uthaymeen rahimullah a un avis un peu particulier quand il a dit des kofars qui pensent dans leur cœur que celui-là c'est notre enfant. Il a dit c'est leur enfant. Parce qu'il croit que ça c'est comme ça. Naam. Mais le musulman, il doit quoi? Il doit connaître sa charia, il doit appliquer, il doit ceci. Ce n'est pas comme le kafir qui vit comme un animal. La plupart des savants ont dit quoi? On dit que c'est un étranger. Et certains, entre autres, j'ai dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit que c'est vraiment spécial où je peux dire à quelqu'un que s'il fait le repentir, c'est accepté, etc. Il a dit, je donne une fatwa. C'est-à-dire, il a dit, je peux dire à ça à une personne entre moi et elle, pas comme ça devant tout le monde. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. La personne concernant l'amende demande comment peut-on faire pour payer l'amende sans payer la majoration.
Toi, ce que tu dois payer, c'est seulement l'amende, pas la majoration. Ça, c'est de Allah subhanahu wa ta'ala. Reste. Maintenant, si tu ne payes pas la majoration et tu sais que tu vas aller en prison ou tu sais que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va te prendre, ta voiture ou là, dans ce cas, tu la payes et tu es dans la contrainte. Tu comprends? C'est-à-dire, toi, tu ne dois pas payer, tu ne veux pas payer. Mais il faut voir quelles sont les conséquences. Si tu ne payes pas, il ne t'arrive rien. Alhamdulillah wa ni'ma. Mais si tu ne payes pas, on va t'emmener en prison. Tu vas rester 1 an ou 2 ans en prison. Il vaut mieux donner quelques euros et ne pas aller en prison. Femte, ou alors on va te vendre ta maison. Non, je donne 100 euros les 200 que je dois payer comme usure et on me prend pas ma maison. Qu'a fait ça? Dans la contrainte, c'est pas moi qui veux. Ce sont eux qui ont dépêché. Naam, tfadlal, wallahu ta'ala alam.
Comme cher, question suivante d'une sœur qui dit... vous aviez dit dans un de vos cours précédents que lors du witr, le salat tarawih, nous pouvons lever les mains lors des du'as si l'imam le faisait. Lorsque je prie salat tarawih, je ne peux pas voir l'imam car je prie dans la salle réservée aux femmes. Et j'ai pu remarquer que certaines sœurs levaient leurs mains. Ma question est, dois-je lever les mains ou bien dois-je délaisser cet acte, cher? Barakallahu fikoum.
Elle a bien dit qu'elle avait vu les sœurs lever la main. Tu as dit comme ça. Ah? Naam. Si elle a vu les sœurs lever la main, c'est qu'elles ont l'habitude de prier dans cette mosquée. Ils savent que l'imam lève les mains. Et en général, dans Salat l'huître, tous les imams du monde presque lèvent la main. Naam. Tous les imams presque du monde dans Salat l'huit, quand ils arrivent au doigt, ils lèvent la main. C'est impossible que quelqu'un fasse des doigts en guidant les gens sans lever les mains. C'est pour cela que elle lève les mains, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit j'aimerais connaître l'explication du verset suivant. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Par exemple, j'aimerais cuisiner pour des mariages. Ai-je le droit si le mariage ne respecte pas toutes les règles de l'islam? Est-ce que cela rentre dans ce verset, cher? Barakallahu fikoum.
Là, c'est ici dans le mariage où il y a divergence. Des choses où il y a divergence. Comme par exemple les anachides, les ceci, les cela. Femme. Et que celui qui fait le mariage, il a des délits. Il dit que pour moi, ce n'est pas interdit, car X des savants a dit ceci, le hadith a dit cela. Et que la personne, cuisine par exemple dans un mariage pareil, ça ne fait rien. Mais si par exemple, il y a des choses qui sont claires, que c'est haram, comme il y a la mixité, comme ils vont danser ensemble, comme il y a la musique, comme, et on l'invite à cuisiner dans un mariage, elle ne doit pas participer, bi'ilnillahi ta'ala. On a demandé à un savant, avant de vous dire ce qu'on a demandé au savant, une seconde, je cherche le verset, une seconde, je cherche le verset pour que vous compreniez mieux. Voilà, tarkanu lilladina zalamu tamassakum an-nar. Une seconde. Fatamassakum an-nar. Fatamassakum. طيب, regardez ce verset. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Wa ma lakum min duni Allahi min awliya thumma la tunsarun. Est-ce qu'il s'est affiché? Alhamdoulilah. Donc le verset a dit, et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous... Quelqu'un a demandé à quelqu'un. Il lui a dit, écoute, moi, il y a quelqu'un, une personne, yani, qui est comme un tyran, quelqu'un de vraiment, yani, qui fait le mal, qui est injuste, qui tue, etc. Et il m'a dit de lui coudre le vêtement, de lui coudre un vêtement. Il lui a dit, est-ce que je rentre dans le verset qui dit, et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Est-ce que je rentre quand je lui couds seulement le vêtement? Je ne participe pas avec lui au meurtre, mais je lui couds le vêtement. Est-ce que je rentre dans ce verset? Le savant lui a répondu, toi, c'est pas tu rentres dans le verset. Toi, tu fais partie du verset. Toi, tu fais partie des injustes. C'est pas tu penches. Toi, tu es parmi les injustes. Et celui qui penche vers les injustes, c'est celui qui t'a vendu le fil et l'aiguille pour coudre. Celui qui t'a vendu seulement le fil et l'aiguille pour coudre, celui-là, il a penché vers les injustes. Quant à toi, tu es un injuste à 100%. Et bien sûr, on dit entre parenthèses, si celui qui lui a vendu savait, yani, dans quel but il allait employer l'aiguille et le fil. Fadal.
Allah fait comme cher. Question suivante. Est-ce autorisé pour un frère converti qu'il emmène sa grand-mère âgée à l'église en voiture le dimanche matin où elle fera des sortes de chants qui sont des actes d'adoration pour eux et qu'il prie pour autre qu'Allah Azza wa Jalla? Allah fait comme cher.
Celui-là, on lui lit le même verset que je viens de citer maintenant. Naam. Et on lui lit le verset, et ne vous entraidez pas dans la turpitude et l'agression. Ou bien la turpitude et la corruption. وَلَا تَعَوَنُوا الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Toi, Akhi le reconverti, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. Toi, tu devrais faire des doua à ta grand-mère pour que Allah subhanahu wa ta'ala la guide comme elle t'a guidé. Maintenant, en l'emmenant à l'église, d'un côté, tu participes, car c'est toi qui a été la prendre à l'église. Tu l'as prise et tu lui as dit sans parler. Tu as dit, maman, ou là, ma grand-mère, va adorer Jésus. Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Va l'adorer. Viens, je vais te déposer devant l'église pour l'adorer. Comme ça, tu lui as dit sans avoir parlé. Et deuxièmement, subhanallah l'azim, yani, normalement, la personne, yani, on interdit à quelqu'un qui veut faire une chose pareille. On lui donne des nasiha. Mais maintenant, si la personne ne m'écoute pas, à la rigueur, qu'elle fasse cette chose toute seule. C'est pas moi, yani, je vais la, yani, participer avec elle dans les péchés. Si elle veut y aller, qu'elle aille toute seule. Naam, si elle veut pas m'entendre. Naam, tfadl.
Sallallahu alayhi wa sallam, cher. Une sœur dit, cher, pouvez-vous réexpliquer la situation d'une fille née de la zina par rapport à son père biologique? Car mon mari n'a pas compris la possibilité que la fille puisse épouser son père biologique, sachant que ce n'est pas son mahram. Barakallahu alaykoum, cher.
J'ai pas compris ce qu'il n'a pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il n'a pas compris.
En fait, cher, vu que son père, enfin son père biologique, n'est pas considéré comme son père, et qu'elle doit donc se voiler devant lui, etc., etc., c'est qu'elle peut donc se marier avec lui. Donc, ce qui est difficile à comprendre pour la raison, cher. C'est ça, en fait.
Tu as dit que cet homme n'était pas son père. Non. Donc d'après elle, d'après cette personne, donc puisque c'est pas son père, elle peut se marier avec lui. C'est ça?
Non, cher, c'est ce qui est compris par ces personnes de vos paroles.
Y a un avis très faible, un avis très faible chez les gens de la science qui disent que c'est permis qu'elle se marie avec lui. Et je crois que cet avis appartient aux adeptes de l'imam Shafi'i, rahimahullah, si j'ai une bonne mémoire. Mais tous les grands savants et les muhakkikoun ont dit que c'était interdit. Pourquoi? Parce que cet enfant, l'âme, est né de l'eau de son père, de cet homme qui est son père biologique. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va faire? L'âme, il va épouser un être humain dont lui a été sa cause pour son existence, qui vient de son eau, de son eau lui-même. C'est de ce côté que c'est interdit. Quant à c'est pas son père, c'est une, comment dirais-je, c'est une punition divine. Une punition divine. Sinon, à la base, c'est son père. C'est son père, car il vient de son eau. Mais elle va se voiler devant lui. Ce n'est pas son père à cause de la punition divine, puisqu'il n'a pas fait le acte shar'i, il n'a pas dit bismillah, il n'a pas fait le acte du mariage. Dans ce cas, Allah Ta'ala l'a puni, il a dit, tu n'es plus son père, tu es seulement le biologique et pas le père religieux. Non.
Barakallah fi koum, cheikh. Question suivante. Cheikh, est-ce qu'il est permis d'appeler sa fille Nour? Barakallah fi koum, cheikh.
Je ne me rappelle pas et j'ai pas maintenant dans ma tête que l'interdiction. Je n'ai pas l'interdiction. Non. Je ne me rappelle pas qu'il y a quelque chose qui interdise ce prénom. Car il n'y a pas de tesquilla, il n'y a rien. Vous allez me dire c'est un nom d'Allah. Certains ont dit ce n'est pas un nom d'Allah. Reste que pour confirmer à 100%, ce sera donc Inch'Allah Ta'ala. Naam, Nour al-Huda. Naam. Inch'Allah, je confirmerai dans le prochain cours. Je confirmerai dans le prochain cours. Tfadlal. Mais en principe, ce n'est pas interdit.
Barakallah fikoum, cher. Naam, Fawzi, si tu peux noter. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: mon employeur m'a privé de certains de mes droits. Il me doit de l'argent et refuse de me les donner. Je veux les récupérer car je suis dans le besoin. Je veux donc aller en conciliation, terrain d'entente. Des indemnités me seront versées en tant que réparation du préjudice. Ces indemnités sont-elles licites, cher? C'est-à-dire que quand elle va faire cette conciliation, elle aura normalement plus d'argent que ce qu'il y a, ce qu'il lui doit en fait, une sorte de compensation. Et elle dit: j'ai oublié de préciser que je suis obligé d'aller dans cette conciliation pour avoir mon argent compte tenu de son refus. Donc soit elle doit délaisser son argent, soit elle doit se rendre à cette conciliation. Et si elle s'y rend, il y a de fortes probabilités qu'elle ait plus d'argent que ce qu'elle n'a réclamé.
Afoune, il faut relire si c'est possible, car je lisais autre chose en PV. Tfadal.
Non, cher. Donc, la sœur dit que son employeur l'a privé de certains de ses droits. Il lui doit de l'argent, mais refuse de lui donner. Alors maintenant, elle veut aller sur le terrain donc, judiciaire et avoir donc une conciliation avec lui, sachant qu'elle est obligée d'y aller si elle veut récupérer cette somme d'argent. Donc soit elle délaisse cette somme d'argent, soit elle doit prendre cette conciliation. Et si elle prend cette conciliation, cher, des indemnités lui seront versées en plus, en tant que réparation du préjudice. Donc elle veut savoir si ces indemnités sont-elles licites, cher, si elles sont licites, pardon.
En principe, quand quelqu'un il me doit de l'argent, je ne dois prendre que ce qu'il me doit. Vous avez compris? Maintenant, s'il m'a poussé à prendre un avocat, à ceci, à cela, à prendre le train, à prendre ceci pour récupérer mon argent, je peux prendre parmi les indemnités pour payer les choses que j'ai dépensées à cause de lui. Vous avez compris? L'avocat, le train, ceci, cela, à cause de lui, c'est lui qui m'a poussé donc à dépenser tout cet argent à cause de lui. Parmi les indemnités, je peux prendre, inshallah ta'ala, les choses, yani, que j'ai dépensées à cause de cette affaire. Naam. Les autres, inshallah ta'ala, je peux, bi'idhnillahi ta'ala, les donner par exemple aux nécessiteux ou bien à une mosquée. Naam. Tfadhal.
Là, fait comme cher. Là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui que vous avez prévu de faire ce que vous aviez dit par rapport à Toulouse, cher. Au cas où, je vous rappelle. Donc, question d'une sœur qui dit: un frère masse sa mère dans le dos et elle se plaint de douleur au niveau du bas du dos et un peu sur le postérieur. Peut-il masser également ces endroits, cher? Sachant que ce frère est la seule personne de sa famille qui la masse, car son père ne peut pas trop le faire, car son travail est fastidieux et qu'il s'endort trop. Donc c'est le frère qui s'occupe de sa mère, la masse dans le dos, etc. Mais il arrive parfois qu'elle ait des douleurs au niveau de la aura également. Et elle veut savoir si c'est permis, cher.
Le frère. Donc, si je comprends, c'est son fils. C'est le fils de cette femme. Et nam. Et maintenant, si nam, s'il y a une femme, ce serait mieux qu'un homme. S'il y a par exemple son mari, ce serait aussi mieux. On commence par son mari, c'est possible. Sinon, une femme. S'il n'y a maintenant que cet homme qui est son fils et qu'il n'y a que cette solution, il est dans la contrainte. S'il est sûr que ce qu'il fait, yani que ça donne des résultats, que ça l'apaise, et que d'un autre côté, qu'il est sûr que yani, il n'y a pas le shaitan qui waswas. Il n'y a pas le shaitan qui waswas de part et d'autre. Car dans ce cas, il est comme. Yani, c'est comme un médecin. Car il fait ça, yani, dans la contrainte. Naam. Ensuite, c'est sa mère. Ensuite, c'est sa mère. C'est-à-dire que c'est un mahram l'un pour l'autre. Naam. Mais s'il trouve par exemple une femme, c'est mieux. S'il trouve une femme, c'est mieux, bi'idhnillahi ta'ala. Même yani, si on doit la payer. Tfadhal.
Barakallah fait comme cher. Question suivante d'une sœur qui dit: mon père demande, j'ai trois filles, pas de garçons. Est-ce que j'ai le droit, selon la loi d'Allah, de donner mes biens à mes filles? Je voudrais faire un testament pour donner mes biens à mes filles. Barakallah fait comme cher.
En principe, c'est permis, dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit, mais je ne le conseille pas. Pourquoi? Il dit, car on ne sait jamais. Supposons qu'à la dernière minute, après avoir fait le testament, il va avoir une autre fille. Donc celle-là, elle sera privée. Ou bien il va avoir un garçon. Donc il sera privé. Ou bien la personne elle-même qui vient de faire le testament, par exemple, aura besoin d'argent ou de biens. Alors que elle les a déjà donnés à ses filles. Donc il a dit, c'est permis, il a dit, mais je ne conseille pas. Comme ça, il a dit. Non. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est permis. Mais c'est déconseillé, c'est tout. Mais si la personne veut le faire, c'est permis, inshallah ta'ala. Tfadhal.
Barakallah fi koum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: cher, je viens d'aller voir un neurologue, car je fais de grosses migraines. Une neurologue, plutôt. Elle m'a demandé d'aller faire une IRM cérébrale. J'ai appris que le plus souvent, il fallait se déshabiller, se dévoiler et mettre une blouse, comme celle de l'hôpital. L'examen sera pratiqué par des femmes ou des hommes. On n'a pas le choix. Dans ces conditions, dois-je faire cet examen? Et entre parenthèses, je conseille juste à cette sœur, si elle peut faire hijama auprès de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, au niveau donc du crâne, du milieu du crâne, en haut, bi'innillah, yenfa, inshallah.
Rabah, ça. Et Rabah. Donc, après avoir fait le hijab, ma sœur, je sais pas, elle voit que elle est dans la contrainte de faire cette analyse ou ce qu'elle vient de dire ici. Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'elle puisse. Elle rentre, par exemple, avec la blouse et un petit foulard sur la tête. Et quand c'est le moment de poser le scanner ou je ne sais pas sur la tête, elle enlève le khimar à la dernière minute. Inch'Allah ta'ala. Et dès qu'elle termine, elle le met sur sa tête. Donc, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse. Surtout que ce n'est pas elle qui peut choisir. Ce sont des hommes ou bien des femmes. Une sœur dit lui, non, car moi j'ai fait les RM habillés. Voilà, une sœur a dit, elle a fait l'IRM habillé. Donc toi là-bas, tu essaies de rester habillé. Sauf si on te force. Non. Moi je le fais en djilbab tant qu'il n'y a pas de fer sur elle. Voilà. Aussi de ne pas avoir du fer sur soi. Comme ça, on te laisse, Inch'Allah ta'ala, avec ton voile. Tfadzal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'un frère qui dit qu'il pose la question d'une sœur. Donc, question d'une sœur. Je désire avoir l'explication d'un hadith comme quoi la femme ne doit pas se dévêtir hors de la maison de son mari. Barakallahu fikoum, cher.
Naam, les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait dans le contexte de la femme qui revenait du bain mort, ce qu'on appelle en Algérie le hammam. Et il a cité le hadith qu'une femme ne devait jamais se dévêtir, sauf chez ses parents ou bien yani des mahrams. Vous avez compris? Il parle de la femme qui vient du bain mort. Dans le bain mort, les femmes se déshabillent, restent avec une tenue légère et elles sont toutes l'une assise à côté de l'autre et elles se voient mutuellement beaucoup de choses du corps. C'est pour ça qu'il a cité le hadith. Sinon, quand une personne, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, je vais bon, moi je suis un homme. Le contraire, maintenant c'est une femme. Une femme, par exemple, est venue, par exemple, une amie à mon épouse. Elle est venue chez nous. Par exemple, elle connaît bien mon épouse. Elle est venue passer la nuit même. Naam. Ensuite, elle veut prendre une douche. Naam. Chez mon épouse, ou bien elle doit prier, ou bien. Naam. Ce n'est pas interdit. Naam. Pourquoi? Parce que le hadith ne parlait pas de ce contexte. Le hadith parlait du bain mort où les femmes se trouvent ensemble et se déshabillent. Là, elle est toute seule dans la pièce fermée, la salle de bain fermée, et l'homme peut-être n'est même pas dans l'appartement, ou bien. Non. Donc, yani ça n'a rien à voir avec ce que beaucoup de gens comprennent, que c'est comme ça en général. Il dit la femme ne doit jamais se déshabiller que seulement quand elle est chez son père ou son frère ou son oncle. Si elle va chez son ami ou là, elle ne peut pas se déshabiller, même si elle est avec des sœurs. En se basant sur ce hadith. Naam, tfadhal.
La sœur Umsana dit à la sœur qu'elle peut la contacter afin qu'elle lui explique comment faire, Inch'Allah. Question suivante d'une sœur qui dit: j'étais très proche avant d'une sœur qui était à l'école avec moi. Je me suis rendu compte qu'elle suivait les gens de l'innovation comme Youssouf Al-Qaradawi. J'ai plusieurs fois essayé de lui faire le rappel, mais sans succès. Depuis que j'ai arrêté l'école, j'ai coupé contact avec elle sans lui expliquer pourquoi, car j'ai compris qu'elle n'acceptait pas le haqq. J'ai changé de numéro en la laissant sans nouvelles de ma part. Cependant, elle vit dans la même ville que moi et n'arrête pas d'essayer de me parler. Elle a réussi à obtenir mon numéro et n'arrête pas d'essayer de me contacter. Mon cœur est faible, ses propos sont certes infondés, mais nous avons été très proches auparavant. Et j'ai peur qu'en lui expliquant la raison de mon écartement, de mon écart, je me laisse avoir par la peine que ça pourrait lui causer. J'ai pensé à lui envoyer un mail pour lui faire un rappel de plus et lui dire que je me désavoue d'elle si elle reste sur le même chemin, mais j'hésite. Que me conseillez-vous, cher?
Non, tu peux lui envoyer un mail dans lequel tu lui expliques voilà ce que disent les savants, par exemple, et ceci, cela, sans dire comme ça je me désavoue de toi. Sans lui dire que je me désavoue de toi. Et que seulement tu lui expliques ce que disent les savants sur les frères musulmans, par exemple, ou bien spécialement sur le Qarada, oui. C'est plein de sur Internet. Ou alors, c'est quoi le minhaj des frères musulmans? Et comme ça. Et ensuite, si vraiment tu sais que quand elle va te répondre que classe scellée et que elle va, c'est pas celle qui peut écouter, accepter les nasiha, rien ne t'oblige à la prendre comme amie. Rien ne t'oblige à la prendre comme amie. Nam, tu peux y aller voir comment y aller. Yani, s'éloigner d'elle ou de lui dire que voilà, franchement, yani, on n'est pas sur le même chemin, on n'est pas. Yani, on risque d'avoir des conflits entre nous et que chacun, inshallah ta'ala, tu lui dis que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide davantage. Dame.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: est-ce que cher peut parler du statut de la famille maternelle d'une sœur née hors mariage, sachant que la famille maternelle est musulmane? Est-ce que les oncles maternels sont bien des mahrim, sachant qu'ils sont salafis? Barakallahu fikoum, cher. Je répète: est-ce que vous parlez du statut de la famille maternelle d'une sœur née hors mariage? Donc sa sœur est née hors mariage. Quel est le statut de la famille maternelle, sachant que cette famille est musulmane? Qu'en est-il des oncles maternels, sachant qu'ils sont sur le ménage? Alhamdoulilah.
Nam, pour la mosquée de Toulouse, Nam, tout à l'heure, ou plutôt dans la journée, j'ai parlé avec le responsable. Il m'a dit qu'il lui restait des 60 000. Il y avait 60 000. Il m'a dit qu'il restait 15 000 pour l'instant. 15 000, Inch'Allah Ta'ala. Et il m'a fait comprendre aussi que, moi, la fois passée, j'avais compris que l'argent qu'on avait côtoyé, à fond, côtoyé, récolté, j'avais compris que c'était pour acheter le bout de terrain pour construire la mosquée. Mais lui, il m'a fait comprendre que ce n'est pas un bout de terrain. C'est, il y a né. Comment qu'on dit, le mebna, c'est local, direct. Non, c'est pour acheter un local direct et commencer à prier. Donc, alhamdoulilah, c'est mieux. Voilà, un bâtiment direct. C'est mieux, c'est un grand restaurant. C'est un grand restaurant. Ensuite, je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, inchallah ta'ala, on va récolter un peu. Ensuite, je me suis dit, laissons passer encore une semaine. Laissons passer encore une semaine. Peut-être que eux, allez, ils vont se débrouiller d'ici une semaine, peut-être le quart, la moitié. On va voir, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, s'ils sont vraiment coincés, parce qu'ils ont une date limite, s'ils sont vraiment coincés, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix que de les aider, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je réponds donc à la personne qui a dit que pour le côté maternel, le côté maternel, la mère, c'est ta mère, c'est-à-dire que une fille ou un enfant né d'adultère, sa mère, c'est sa mère, c'est son père qui n'est pas son père, c'est tout. Sa mère, c'est sa mère, il l'hérite et elle l'hérite. Et la même chose pour les frères de sa mère, les oncles. Les oncles, pour la fille, ce sont des mahrams. Les oncles, ce sont des mahrams, elle peut se dévoiler devant eux et elle se marie pas avec eux. Non. Si c'est possible de poser la dernière question, inshallah ta'ala, tafadhal.
Naam, cher, dernière question. Lorsque l'on prie et que quelqu'un nous passe le salam, nous pouvons lui répondre en tendant la main ou aussi en bougeant la tête. Comment se pratique le mouvement de la tête, cher? Barakallahu fikoum.
Tu as dit on lui répond en tendant la main ou bien en hochant la tête. Ensuite, c'est quoi la question?
Juste savoir comment on répond au salam, en fait, donc pour que ce soit plus général. Comment répondre au salam lorsqu'on est en train de faire salat, cheikh, et que quelqu'un rentre et nous dit salam alaykoum, par exemple?
Naam, il y a les trois façons, ou bien de la main, ou bien du doigt, comme l'a fait Ali sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de la tête. Naam, en muhim, je fais comprendre à la personne que, yani, je t'ai entendu quand tu as dit salam alaykoum, et que j'ai fait bouger quelque chose pour que, comme quoi, je t'ai entendu. Et seule une personne le fait, ce n'est pas tout le monde, une seule personne qui lève le doigt ou bien lève la main à cette personne. Inch'Allah ta'ala, pas tout le monde, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.